tous les dimanches de l'été sur Europe 1.
10h, 11h, les grands entretiens de Charles Villeneuve.
Tout cet été, chaque dimanche, pendant environ une heure, je vous propose un grand entretien pour prendre le temps de traiter des grands thèmes qui ont rythmé l'actualité de ces derniers mois. Politique, relations internationales, énergie, santé, sport. Nous parlerons de tous ces enjeux et des conséquences qu'ils ont dans notre quotidien. Aujourd'hui, je reçois David Lisnard, maire de Cannes et président de l'Association des maires de France, avec lequel nous allons parler de l'état de la France qui est dans une situation politique inédite. David Lisnard, comment dois-je dire, monsieur le président ou monsieur le maire?
Bonjour, c'est toujours monsieur le maire parce que c'est le maire, c'est un praticien. J'aime bien cette expression, on est un habitant parmi les habitants, mandaté par les habitants, et ce qui crée, ce qui amène notre responsabilité, ce qui m'a amené à être président de l'AMF, c'est d'être maire.
Donc, de l'Association des maires de France.
L'Association des maires de France, il faut toujours partir du départ, si alors, vous permettez cette évidence.
Nous allons examiner avec vous, David Lisnard, l'état de la France qui est dans une situation politique inédite après l'élection présidentielle de 2022. Les derniers scrutins ont été marqués par une forte abstention et la montée des idées radicales. Peut-on parler de crise civique en France et quelles en sont les raisons profondes d'après vous?
La crise civique, c'est une crise majeure, c'est une réalité. Et elle n'est pas nouvelle, elle est croissante. L'abstention électorale en est une manifestation. Mais pas seulement, il y a effectivement l'abstention électorale, les expressions illibérales, extrémistes, on met le terme que l'on veut, ou radicales comme vous l'avez dit. Et puis il y a bien d'autres phénomènes de la crise du civisme, c'est-à-dire les formes de violence contre les dépositaires de l'autorité publique, dont les élus locaux, qui sont des habitants parmi les habitants, comme je le disais tout à l'heure, qui se traduisent aussi par sur les réseaux sociaux, par le dénigrement des porteurs de paroles et non pas l'argumentation contraire. Et donc il y a des phénomènes majeurs, structurels, qui s'inscrivent parfois dans des origines lointaines. Hein. Ça remonte à 14-18, à mai 68, c'est la remise en cause des institutions. Il y a la crise de l'Occident, quoi, comme l'aurait dit Hannah Arendt à l'époque, hein, la crise de la culture. Et puis il y a des éléments conjoncturels qui tiennent à la façon dont, je pense, l'exécutif dirige depuis 5 ans, en dépolitisant le débat, en disant « je suis le seul représentant de la rationalité, donc tous ceux qui sont contre moi sont déraisonnables, donc on projette vers les extrêmes une somme de personnes, et ça c'est très très dangereux et très pernicieux, on en a vu les limites d'ailleurs au moment des législatives, et puis cette crise de l'instruction, le fait que la raison critique s'exerce de moins en moins, que moi je suis père de famille, hein, mais je crois que c'est la base, elle est là, donc c'est une crise culturelle, c'est une crise civilisationnelle, mais on peut rebondir, moi je suis pas du tout pessimiste d'ailleurs.
Mais est-ce que vous croyez que on puisse parvenir à endiguer cette tendance?
Oui, parce qu'il y a des effets de cycle, oui, parce que on a encore, d'abord on en discute, on en parle, on a quand même une prise de conscience de cette crise civique.
On en parle, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que ça devient un thème, il faut en faire un thème de l'agenda politique. D'abord, c'est pas propre à la France, c'est propre à l'Occident, si on utilise cette expression. C'est accentué en France, hein, les taux d'abstention sont plus élevés en France qu'ailleurs. Et de toute façon, on n'a pas le choix.
C'est nouveau quand même, ça.
Oui. Il y a eu une amplification depuis une dizaine d'années. Et moi, mon premier ouvrage que j'avais écrit avec Jean-Michel Arnaud, ça s'appelait « Refaire communauté pour en finir avec l'incivisme ». Parce que le civisme, cette notion qui vient des Grecs, hein, des Grecs 4e siècle avant Jésus-Christ, elle est très moderne. C'est l'exercice de sa liberté dans l'espace public, donc de sa responsabilité dans l'espace public. Et donc, quand il y a crise du civisme, il y a crise de la liberté, de la responsabilité. Et c'est ce que, avec ceux qui m'entourent, on essaie de porter, comment on peut arriver à retrouver le plein exercice de sa liberté, donc de sa dignité humaine, de sa performance, de son élévation, mais aussi le sens de la communauté nationale par le partage de la responsabilité. Alors ça paraît un peu abstrait comme ça, mais c'est très concret. Lorsque je lançais une opération anti-contrefaçon, lorsqu'on achète des médicaments sur Internet contrefaits, des t-shirts, etc., on se comporte en consommateur et non plus en citoyen. Et donc, là, être consommateur, c'est très bien, mais ça ne suffit pas à faire une existence. Donc, moi, je pense que par un renouveau éducatif, par l'exercice de la raison critique, par la culture, on a la possibilité de redresser la barre.
C'est-à-dire que vous appelez une sorte de renouveau démocratique.
Oui.
Mais est-ce que vous ne croyez pas que ça passe par une réforme institutionnelle profonde ou, je dirais, des nouvelles lois de décentralisation ?
Oui, évidemment. Je suis très attaché à la décentralisation, mais pensez-vous qu'on pourrait se contenter de cela ? Non. C'est-à-dire que il me semble que pour faire progresser notre pays, il faut que l'on arrive à décentraliser, à défiscaliser. Peut-être qu'on en parlera si on parle des comptes publics. Il faut arriver également à retrouver le sens de la dignité. Mais l'organisation des pouvoirs publics est essentielle parce que on doit retrouver le sens de la proximité. La décentralisation, en fait, elle n'a jamais été achevée. Il y a même un mouvement de recentralisation. Et ce qui n'est pas du tout moderne, ce qui n'est pas du tout actuel, qui est très très net. Et ça s'est beaucoup amplifié ces dernières années par la nationalisation de la fiscalité, on le voit avec la taxe d'habitation, par la mise sous tutelle de facto d'un point de vue juridique, administratif. Un maire aujourd'hui ne peut pas s'opposer à l'installation d'une éolienne sur sa commune, car une grande emprise au sol qui va faire plus de 180 mètres de haut. Et en revanche, on lui demande de s'occuper d'un garage de 15 mètres carrés. Donc il y a une recentralisation, et cette recentralisation, elle est archaïque. Elle est source d'inefficacité. Ce qui crée l'efficacité, c'est la responsabilité. Ce qui crée la responsabilité, c'est aussi la proximité et la liberté.
On l'a vu durant la pandémie.
Oui.
On va y venir d'ailleurs. Mais est-ce que vous ne croyez pas que... On parlait de la crise civique, et de l'abstention, quand même assez surprenante. Dans notre pays, on n'était jamais arrivé à un taux aussi élevé. Est-ce que vous êtes pour l'obligation du vote ?
Alors, je vous... Là où... J'ai peur qu'on confonde le symptôme et la cause. Ne pensez-vous pas que... il n'y a pas eu de changement de règle sur l'obligation du vote, et pourtant, il y a moins de votes qu'avant. Donc, la cause, elle n'est pas dans une obligation ou pas. Mais je n'ai pas de certitude absolue
elle
là-dessus.
Elle est quoi, dans la proportionnelle ?
Elle est...
Parce que là, les Français ont voté comme si la proportionnelle était intégrée. Au système.
Alors oui, d'ailleurs c'est vrai, il y a un paradoxe de voir que on n'a jamais eu un parlement autant éclaté et on n'a pas besoin de la proportionnelle finalement pour avoir cette représentation. Donc ça amenuise
oui,
beaucoup
les
arguments de en faveur de la proportionnelle. Mais il y a tellement de paramètres dans votre question. C'est-à-dire que une des causes de l'incivisme vient, je pense, d'un délitement de la raison critique, du sens de la responsabilité, mais vient aussi de la faiblesse parfois de l'offre politique, et souvent d'ailleurs, et vient aussi de ce sentiment d'impuissance publique. La grandiloquence des discours très martiaux, pour prendre un exemple récent, l'histoire de la Champions League au Stade de France, c'est pas un sujet mineur. C'est-à-dire le fait que d'abord il y a des faits graves, il y a l'exécutif essaie de détourner l'attention publique sur les hooligans anglais, alors que tout le monde voit que c'est pas un problème de hooligans anglais. Il y en a eu des problèmes de hooligans anglais, mais c'est pas le cas en l'occurrence. Les images sont claires et heureusement que les Anglais ont réagi, heureusement que les Espagnols ont réagi, parce que nous on est en train de s'accoutumer à ces sortes de détournements d'opinion publique. Donc lorsque vous avez, après chaque fait divers, des grands discours martiaux, plus ou moins bien, souvent des très beaux discours, après un acte terroriste, après un fait divers, en disant nous ne laisserons plus passer ça, nous serons intransigeants, avec la plus grande fermeté. Et puis, proportionnellement à la grandiloquence des mots, il y a l'impuissance des actes, bien, forcément, le citoyen ne se sent plus représenté par la chose publique. Donc, la capacité de... Il y a une crise de l'exécution des politiques publiques. On parle toujours de législation, de réglementation. Intéressons-nous aussi à la façon d'exécuter les choses.
Alors, vous parlez souvent dans votre propos, depuis le début de l'émission, revient la culture. Et au-delà des questions institutionnelles, est-ce que la France ne paie pas aujourd'hui au prix fort son inexorable déclin éducatif et une politique culturelle qui n'est plus ce qu'elle était au temps du général de Gaulle ou de François Mitterrand ? Les Français vous paraissent-ils encore partager un destin commun en tant que nation ?
Qu'est-ce qui constitue une nation ? Ça, voilà une question forte. Qu'est-ce qui constitue cette, au sens d'Ernest Renan, cette communauté de destin à la fois enracinée, mais qui sait, et c'est la force de la République, qui fait en sorte que ceux qui rejoignent la nation française, parce qu'ils viennent d'autres pays, se sentent dépositaires d'une culture commune et se sentent portés vers l'avenir, vers un destin commun. Et donc, ce qui fait ça, c'est bien sûr un pays prospère, je crois que ça aide beaucoup, donc il faut absolument rompre le nœud gordien de la surbureaucratie qui est en train de pénaliser la compétitivité de notre pays, donc c'est la prospérité, mais c'est aussi la spiritualité. Et la spiritualité, et c'est là où je ne partage pas le caractère inexorable. Si je pensais qu'il y avait un déclin et que ce déclin était inexorable, moi j'arrêterais la politique, je ferais autre chose et je cultiverais mon jardin, quoi. Mais en l'occurrence, il n'y a pas de caractère inexorable, parce que lorsque, vous voyez, à Cannes, on a à partir de 2015, lorsque la ministre de l'éducation de l'époque avait supprimé ou quasiment supprimé le grec et le latin, sur le temps périscolaire, sur ce que je maîtrise en tant que maire, j'ai fait instaurer des cours de grec et de latin depuis la maternelle jusqu'au CM2, donc dans les écoles communales. À partir de l'étymologie des mots, en partant des lieux, des sites, des végétaux, etc. On change de quartier tous les plusieurs mois parce qu'on n'arrive pas à forcément trouver des profs pour être partout présents en grec et en latin. C'est complet partout, notamment dans nos quartiers populaires, nos quartiers à forte immigration. Parce que ce que veulent, et moi qui viens d'un milieu simple, un milieu, j'allais dire normal, de classe populaire, classe moyenne moins, etc., ce qu'on accepte tout, sauf l'injustice, et la première injustice, c'est le fait que nos enfants n'aient pas accès à une instruction de qualité. Et ce n'est pas inexorable, parce que chacun veut que son enfant ait une bonne instruction publique. Et ça devrait être la priorité, la rénovation des politiques publiques en France. Et donc nos cours de grec et de latin, nous, ils sont complets. Ils sont complets, notamment dans les quartiers populaires dits politiques de la ville.
Alors, les élus locaux se plaignent d'un autre déficit, David Lisnard, maire de Cannes. C'est-à-dire le dialogue avec le président de la République. Et on va marquer une pause et on reviendra sur le fait qu'il y ait non pas un divorce, mais quand même un malaise entre les décisions du gouvernement qui est dû au centralisme atavique de ce qu'on appelle l'État profond.
Europe 1, 10h, 11h.
Les grands entretiens.
Charles Villeneuve.
David Lisnard, maire de Cannes. Et président de l'Association des maires de France. Le premier quinquennat d'Emmanuel Macron a été marqué par un fossé béant entre le président de la République et les élus locaux, une sorte d'incompréhension totale et manifeste. À quoi l'attribuez-vous ? Au tempérament du président ? Aux décisions du gouvernement ? Ou au ce que j'appelle le centralisme atavique de l'État profond ?
Ne pensez-vous pas que la réponse est dans les trois éléments que vous citez ? C'est-à-dire que dans cette question, en fait, il y a deux paramètres. Il y a le mouvement, j'allais dire presque, alors là pour le coup quasiment inexorable, de centralisme qui est l'expression du conformisme de la haute administration française, d'élites qui sont formées toutes de la même façon, qui ont les mêmes parcours, et qui s'imaginent, de façon d'ailleurs un peu paternaliste, plus ou moins volontairement, que la bonne organisation ne peut venir que des schémas verticaux, que des grandes organisations. Ce qui est complètement obsolète, dépassé dans le monde de l'entreprise. On sait dans le monde de l'entreprise qu'il faut recréer des îlots de responsabilité locale. Mais dans la haute fonction publique, dans la vision un peu anarchique des choses, on pense que plus c'est grand, plus ça vient d'en haut, plus c'est juste et neutre. Comme si l'État était un garant de neutralité, ce qui n'est pas le cas. Moi, je suis très attaché à l'État. On a besoin d'un État fort, un État impartial. Ça fait partie de la force d'ailleurs et de la grandeur dans un État de droit. Mais pas un État qui nous explique toute la journée combien on doit prendre de douches, combien de fruits et légumes on doit manger, etc. Donc, il y a ce mouvement, et l'Association des maires de France a été créée en 1907, vous voyez, c'est pas nouveau, pour défendre les libertés locales. Et donc, régulièrement, il faut remettre le fer à l'ouvrage. Et puis, deuxièmement, il y a eu cette pratique d'un président de la République qui se faisait appeler Jupiter. Donc, c'était quand même très significatif, hein, d'une volonté peut-être... pleine d'une bonne volonté, certainement.
Là, on oublie, il est descendu de l'Olympe.
Mais moi, je l'ignore, mais en tout cas, donc avec des décisions qui étaient très verticales. Et surtout, Les élus locaux sont habitués à avoir des relations parfois tendues avec l'exécutif, toujours respectueuses parce qu'on se sent partenaire, on veut être un partenaire loyal de l'État. Mais j'ai vu des relations très tendues avec les prédécesseurs d'Emmanuel Macron, que ce soit François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, François Mitterrand, avant je ne m'en souviens pas. Mais ceci étant, ce qui rend d'autant plus difficile le dialogue, c'est lorsqu'il y a des déclarations et qu'elles sont contredites dans les faits. Lorsqu'on nous dit en 2017 qu'il y aura, que les maires seront associés aux décisions qui le concernent et qu'ils ne seront plus entravés. Donc on était très sensible à ce discours-là, puis qu'on se retrouve avec le dispositif de Cahors qui était une forme de tutelle sur les dépenses de fonctionnement. Lorsque on nous dit sur un discours qu'on s'est très très mal géré, puis qu'on se rend compte que comme on s'adapte toujours aux réalités, on arrive toujours à voter à l'équilibre, parce que comme dans une entreprise on est rigoureux et on vient piller dans les finances communales, bien oui, ça crée de la défiance. Donc maintenant on a besoin d'actes, on est au début d'un nouveau quinquennat. Moi je ne fais pas de procès d'intention à Madame la Première Ministre, j'ai eu une première discussion avec elle très respectueuse, et on va essayer de porter les voies d'un partenariat comme on doit le faire en maturité démocratique.
Mais croyez-vous vraiment que l'État semble tenter de baisser les impôts de production, c'est-à-dire les ressources locales, et de renouer avec les dispositifs de contraintes financières sur les dépenses des collectivités?
D'abord, la question de la compétitivité de l'économie, elle est majeure. Et donc, dans les freins à la compétitivité, il y a le problème de la compétitivité fiscale. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a surtout le problème des contraintes administratives. Le code de l'environnement, qui est passé de 100 000 mots il y a 10 ans à 1 million de mots maintenant. Le nombre de règles et de normes qui a augmenté de presque 60% en 20 ans. C'est la première des contraintes. Un état d'esprit qui est contraire à la science, à l'industrie, le principe de précaution qui est dévoyé, etc. Donc, mais pour revenir à la fiscalité, il y a des fiscalités économiques. Alors, on parle de la CVAE comme impôt de production, je ne suis pas sûr que ça en soit un, mais enfin, en tout cas, c'est un impôt économique. Et donc, qu'on recherche la compétitivité, c'est normal. Mais cela doit être fait en dialogue avec les collectivités, et c'est pas en supprimant le lien fiscal qu'on va créer de l'émulation, qu'on va créer de la responsabilité. Le problème, c'est que l'État se comporte toujours de façon tutélaire, c'est-à-dire supprime une fiscalité locale, dit « je la compenserai », mais en fait il ne la compense pas, se surendette, prélève des impôts ailleurs, et en fait nous enlève notre responsabilité. Si on ne lève plus l'impôt, on ne rend plus de compte aux contribuables. Donc on socialise l'économie. Il y a actuellement un phénomène de socialisation de l'économie qui est contraire aux objectifs affichés, auxquels personnellement je m'oppose.
C'est pour ça que, avec d'autres d'ailleurs, vous dressez le constat d'un État à la fois omnipotent et faible, champion des prélèvements obligatoires et incapable d'assumer ses missions régaliennes. Comment voulez-vous et comment comptez-vous recentrer l'État sur l'essentiel? Parce que là, vous venez de développer, vous avez abordé l'essentiel.
Je crois que, comme disait le président Pompidou, c'est le nœud gordien. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui détermine tout le reste, c'est l'efficacité de l'appareil public. On a des fonctionnaires de bon niveau en France, qui coûtent plus cher aux contribuables qu'ailleurs, donc il faut être bien clair sur le constat. 46% de prélèvements obligatoires, c'est le record de l'OCDE. La dépense publique oscille entre 56% et 60%, le record du monde. Donc quand on parle de pays libéral, ça me fait rire. On a le record des prélèvements et de la dépense et des réglementations. Donc on est plutôt un pays extrêmement collectivisé. Or, on a des fonctionnaires de bon niveau, qui sont souvent des gens honnêtes, compétents, et qui coûtent plus cher aux contribuables qu'ailleurs, mais qui gagnent moins qu'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Il se passe que le fait qu'on a des surcharges administratives qui sont de 8 points supplémentaires à la moyenne européenne. Ça représente presque 500 000 agents de plus uniquement sur du back-office administratif. Tout est là. Si on veut retrouver l'efficacité régalienne, si on veut retrouver l'efficacité à l'hôpital, si on veut retrouver... On n'a jamais eu autant eu d'agents de la collectivité publique. 5 700 000, 127 000 de plus depuis 5 ans agents de la fonction publique en France. On n'a jamais eu aussi peu de services publics sur le terrain, dans la ruralité, dans nos quartiers. Donc, il faut d'abord faire le bon constat. Ensuite, il y a effectivement...
Et là, vous le faites.
Oui,
mais
c'est bien de le partager.
Là, vous décrivez trop de strates administratives et fiscales en
France. C'est plus que ça, c'est même plus trop de process et de cette volonté d'intervenir sur
mais
tout.
Mais ça complique le
créer...
millefeuille, le fameux millefeuille territorial.
Oui, mais aujourd'hui, quand on compare quelques chiffres, quand on regarde les dépenses publiques, toutes les collectivités territoriales françaises, c'est-à-dire les régions, les départements et le bloc communal, communes et intercommunalités, ça représente 16% du total des dépenses publiques en France, du total des dépenses publiques en France. La moyenne européenne, c'est 36%, c'est 19% en France, 36% en Europe. Et pourtant, nous représentons 70% de l'investissement. Donc le problème, il est dans les comptes sociaux et dans les comptes de l'État. Il faut moderniser, adapter, redonner du sens, de la motivation à nos fonctionnaires de l'État.
C'est un chantier prioritaire pour vous.
C'est le chantier prioritaire, c'est ce qui nous permettra de retrouver une instruction de qualité.
Mais en tant que président des maires,
justice de qualité. Et c'est pourquoi il faut aussi un mouvement de décentralisation, retrouver le sens de la
subsidiarité. Mais vous avez la puissance maintenant, monsieur le président.
Mais pensez-vous qu'une association dans un pays aussi centralisé, la puissance, je n'ai la puissance que de la conviction et des combats que nous portons avec la belle
équipe avec vous.
Transpartisane, puisque nous regroupons tous les maires qui sont non encartés, qui sont de gauche, de droite et du centre, y compris les maires qui sont proches du pouvoir actuel. On est tous unanimes pour défendre ces combats et ça j'en suis très fier.
Et vous allez y arriver alors?
Bah écoutez, il faut avoir l'optimisme de la volonté, et non pas le pessimisme de l'humeur, comme disait le philosophe Alain.
Débureaucratiser la France.
Vous défiscaliser, débureaucratiser, décentraliser, tout cela pour la dignité.
Mais monsieur le maire de Cannes, David Lisnard, vous savez bien que la société française semble plus habitée par la passion de l'égalité que par les vents de la liberté individuelle et de l'initiative privée.
Mais pensez-vous que là aussi, que... ça soit une réalité.
C'est un constat.
C'est-à-dire, Tocqueville parlait de ça, on a souvent parlé de ça.
Oui.
Mais d'abord, l'égalité des droits, c'est majeur. Il n'y a pas de liberté sans égalité des droits. En revanche, c'est l'égalitarisme qui est le problème. Et il faut en finir avec le mythe de l'égalité des individus dans la réalité. Et heureusement, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas égalité absolue, parce que c'est la dictature. Et en l'occurrence, quand vous regardez les sommes de dynamique qu'il y a localement. Quand vous regardez l'esprit entrepreneurial qu'on retrouve dans des quartiers dits difficiles, quand vous regardez cette proactivité, cette soif d'entreprendre, quand on fait des sondages, notamment chez les jeunes Français, beaucoup veulent être indépendants. Moi, je viens d'un milieu d'indépendants. On m'a toujours appris dans ma vie à m'aguerrir, à essayer de me débrouiller par moi-même. Et puis ensuite, on doit avoir des systèmes de solidarité pour que chacun ait une deuxième chance, une troisième chance, et l'État est là pour protéger et assurer la dernière garantie. Mais je crois profondément qu'il faut qu'on arrive à se désintoxiquer de l'étatisme et de l'interventionnisme, et on va voir à quel point notre société, elle est tonique, elle est dynamique, elle est créative. La France est un pays créatif. C'est ça qu'il faut arriver à libérer.
Vous parlez même du capitalisme populaire.
Oui, oui.
Ce qui est audacieux.
Oui.
Vous allez le développer tout de suite.
Tous les dimanches de l'été sur Europe 1, 10h, 11h, les grands entretiens de Charles Villeneuve.
David Lisnard, président de l'Association des maires de France. Est-ce que vous êtes le héros du retour des idées libérales qui passent par une meilleure acceptation populaire de l'économie de marché et de ses mécanismes? Vous parlez du capitalisme populaire, ce qui est audacieux, je le disais avant cette pause. De quoi s'agit-il et quelles en seraient les traductions concrètes? Il faut quand même rentrer dans le concret sur ce plan-là.
Moi, je n'ai pas la prétention d'être héros de quoi que ce soit. En revanche, par mon expérience à la fois dans le commerce, dans mon expérience de maire, dans mon expérience de père de famille, et puis par ce que j'ai appris de la vie, ce que je sais, c'est qu'il y a des ressorts à la dynamique. Il faut créer des dynamiques, il faut créer des flux. Et que pour cela, eh bien, il faut de l'innovation. Il faut de la création, il faut de la rupture, il faut aussi de la transmission. C'est tout le mystère d'ailleurs. Et qu'il y a des facteurs de production. Il y a le travail, donc il faut revaloriser le travail. Si on ne fait pas du travail un élément de fierté, d'émancipation, de liberté, de dignité, notre pays ne s'en sortira pas. On sera en deuxième ou troisième division du monde, notamment du monde numérique, du monde d'aujourd'hui. Troisièmement, et il faut transmettre ce qui fait la puissance de la France depuis des siècles. On est une belle civilisation qui vient des Grecs, des Romains, de la culture chrétienne, judéo-chrétienne, des Lumières. Et puis, il y a l'investissement. Donc, quand je parle de capitalisme populaire, c'est qu'on ne peut pas progresser, on ne pourra pas décarboner, on ne pourra pas trouver le moyen d'utiliser les mers et les océans pour faire des aspirateurs à carbone en préservant l'écosystème s'il n'y a pas d'investissement. Et pour qu'il y ait de l'investissement, il faut qu'il y ait de l'épargne et que l'épargne soit dirigée vers l'investissement. Et c'est pourquoi, par exemple, à titre personnel, et là, ça n'engage que moi et mon parti Nouvelle Énergie, je suis pour un étage de retraite par capitalisation obligatoire et qui permettra dans le temps, on voit très bien que malgré les soubresauts de la bourse, partout, dans le temps et dans l'espace, ça a toujours fonctionné. C'est comme cela se fait dans quasiment tous les pays qui fonctionnent, et comme cela se fait pour les fonctionnaires, d'avoir un étage par répartition, qui est un héritage de 46, hein, et d'avoir un étage par capitalisation. Et c'est ce qui permettrait donc d'avoir une épargne. En fait, c'est une retraite par épargne, et c'est ce qui apporte un triple avantage. Un, pour les futurs retraités eux-mêmes, puisque tout démontre dans le temps et dans l'espace, que c'est générateur de plus grands revenus que par la répartition de surcroît vu l'évolution démographique. Deux, pour les comptes publics, parce que ça peut nous permettre d'atteindre une économie de 30 milliards par an par ce système qui responsabilise et qui se fonde sur la création de valeur. Trois, pour l'industrialisation, parce que cette épargne, avant d'être distribuée, elle peut être orientée, elle doit être orientée vers l'économie réelle, vers les entreprises performantes sur le plan numérique, sur le plan de la transition énergétique. Donc ça apporterait une formidable énergie et bouffée d'oxygène aux entreprises françaises, dont notamment aux ETI, qui ont besoin d'être mieux capitalisées, parce que la capitalisation, c'est l'investissement. L'investissement, c'est la production, c'est la productivité. C'est ce qui permet de concilier le progrès social, l'amélioration de conditions de vie des salariés et des ouvriers, et la création de richesses et de valeurs. Toutes ces notions dont on ne parle plus, hélas, dans le débat politique aujourd'hui.
On va aborder un autre chapitre, la refondation de la droite française. Est-ce qu'elle est encore possible? Alors, David Lisnard, maire de Cannes, vous êtes une des figures montantes de la droite républicaine. Votre famille politique LR et républicain est dans un mauvais état, affaibli par ses défaites successives à la présidentielle. Est-ce que c'est l'échec des hommes ou des thématiques retenues par les leaders qui ne sont pas bonnes?
C'est les deux. Mais c'est précisément parce qu'il y a eu ces échecs qu'il faut se poser cette question de la refondation. Alors, l'objectif, la finalité, c'est pas la droite. D'ailleurs, ça veut dire quoi, ces notions-là? En revanche, la finalité, il y a deux finalités. C'est la démocratie et c'est l'intérêt du pays. Alors, il n'y aurait qu'une finalité, c'est l'intérêt du pays qui passe par la démocratie et des bonnes politiques publiques. Si on a bien vu que l'absence de clivage civilisé, quoi. Là, c'est très Raymond Aron, quoi. De confrontation forte et civilisée de convictions se traduit par la montée des extrêmes et par la dépolitisation. Donc, il faut retrouver des alternatives crédibles, fortes. Donc, on appelle ça chez nous gauche-droite, ailleurs c'est progressisme, conservatisme, qu'importe les mots en l'occurrence. Et on le doit à notre démocratie, parce que c'est ce qui permet aussi de donner du sens au vote, de créer des élans collectifs et donc de concilier le préférable qui doit parfois s'imposer à l'idéal, mais aussi une certaine vision du pays. Donc la question à se poser, avant de se dire est-ce que c'est possible, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'aujourd'hui, la droite est encore une droite classique, une droite moderne, une droite bien dans ses racines et ouverte sur le XXIe siècle, et utile? Moi, je crois plus que jamais. Je crois que plus que jamais...
Mais vous êtes pris en tenaille, là, entre le camp nationaliste et le centre macroniste.
On est pris en tenaille si on accepte cette dialectique qui, en fait, moi, tout ce que vous me dites, ce sont tous des socio-étatistes. Moi, je crois que la réponse, elle est ailleurs. La réponse, elle est dans un régalien fort, elle est dans la liberté de création, elle est dans l'unité de la nation.
Justice.
Sécurité. Et dans du concret, sans forcément toujours vouloir faire des grandes lois, surtout sans faire de grands effets d'annonce, mais aller dans l'exécution des choses, de vraiment faire des places de prison, de vraiment veiller à l'exécution des peines, de faire en sorte que on se sente plus dans l'injustice qui fait que lorsque vous faites un excès de vitesse, vous êtes à juste titre sanctionné, mais si votre voiture brûle en bas de chez vous, celui qui la brûle n'est pas sanctionné. Et ça déprime les classes moyennes. Donc, on doit être aussi dans l'unité de la nation. Et ce triptyque, unité de la nation, par la culture, par l'instruction, par la justice, autorité régalienne et liberté de création, c'est ce qui fait, à mon avis, notre substrat. Et donc, on doit sortir de ce social-étatisme qui consiste à chaque problème à apporter un chèque, à apporter une réponse de l'État. Et c'est ce que dit la NUPES, c'est ce que pratique le pouvoir actuel, et c'est ce que dit le Rassemblement National. Nous, on doit être différents. On doit renforcer les individus et renforcer la collectivité par le sentiment de responsabilité.
Mais l'opinion publique qui a voté à l'élection présidentielle vous envoie une réponse. L'extrême droite, sous des formes diverses, atteint des niveaux historiques. L'extrême droite, l'extrême gauche.
C'est vrai. Et c'est précisément parce qu'il y a cette réalité qu'il est temps que l'on reconstruise un corpus fort. Il faut, avant même de poser la question de l'incarnation qui est toujours posée et qui est pertinente sous la Ve République, de surcroît, il faut poser la question du corpus. Je pense qu'on n'a pas su assez faire entendre ce qui nous distinguait, ce qui nous singularisait. Donc,
mais qu'est-ce qui vous distingue?
Ben, je crois précisément cette vision que je viens d'exprimer. Qui aujourd'hui va nous dire que, à part nous, que si on veut recréer de la justice face à l'instruction publique, il faut en finir avec ces mécanismes de cartes scolaires qui assigne à résidence les gamins dans les mêmes quartiers. Les gens de classe moyenne supérieure, les gens aisés, ils savent très bien où mettre leurs gamins. Mais toutes les classes moyennes et les classes populaires, aujourd'hui, se voient assigner leurs enfants dans des écoles qui ont les professeurs les moins aguerris, où il y a des concentrations d'enfants d'origine immigrée qui parlent mal le français, où on a du mal à passer le sens collectif, le sens de la nation, et ça se fait au détriment de tout le monde, et en particulier des personnes les plus modestes. Moi, je crois qu'on est les seuls à le dire. Qui va dire que aujourd'hui il est temps de supprimer la fiscalité sur la fiscalité? J'entends pas dire ça ailleurs. Qui va dire qu'on doit être le parti de la transmission? Que notre rôle aussi sur Terre, c'est d'innover et de transmettre et de réussir les deux. Qui va rappeler que si on veut relever le défi numérique et le défi écologique, il est temps d'avoir une grande ambition scientifique qui passe par le privé et par le public?
Et vous croyez-vous qu'à partir de là, vous pouvez rebâtir une grande force politique héritée du gaullisme, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy?
Oui, de Georges Pompidou, de Tocqueville, de Bastia, de Raymond Aron. Il y a pire comme héritage. Et puis surtout, qui se projette vers l'avenir. Pensez-vous que si je ne le croyais pas, je serais à ce micro? Je ferais autre chose.
Ah oui, non, mais ça... Vous êtes engagé dans la politique fortement et d'ailleurs, non sans mal, mais vous avez réussi à être président de l'Association des maires de France.
Avec un joli score, vous en conviendrez.
Oui.
Permettez-moi cette satisfaction.
Oui, oui. rappelez-le d'ailleurs.
Plus de 60%, voilà. Face
alors,
à une adversité.
Et avec, dans votre équipe d'ailleurs, des gens de gauche.
Des gens de toute tendance. C'est la grandeur de l'Association des maires de France, c'est d'arriver à trouver un haut multiplicateur commun. Donc, on réunit tous les maires. De gauche, de droite, du centre, ceux qui sont proches du pouvoir, ceux qui sont...
En même temps, ça tient debout chez vous aussi.
Mais pourquoi? Parce que c'est la différence... Vous savez, le en-même-temps-tisme, comme je le dis, c'est pertinent lorsque ça permet de comprendre la complexité du monde et des problèmes. En revanche, c'est dans la prise de décision. Ça n'existe pas, le en-même-temps dans la prise de décision. Et le problème du pouvoir, c'est qu'il est de moins en moins complexe dans son approche des problématiques, mais qu'il est de plus en plus ambigu à la fois dans ses discours et dans ses prises de décision. C'est pourquoi la France régresse. Le commerce extérieur n'a jamais été autant déficitaire. Le déficit de l'État a augmenté avant le Covid. Le déficit de l'État a repris sa chute à partir de 2018. Donc il y a des réalités factuelles qu'il est temps de regarder en face.
Et vous avez vous-même créé récemment une formation partisane autonome intitulée « Nouvelles énergies ». Pourquoi faire?
Alors c'est au singulier, c'est Nouvelle Énergie. C'est un parti que j'avais créé...
Ah, au singulier, pas de
ouais.
S.
Mais on accepte au pluriel. Hein.
Ah oui, d'accord.
J'espère qu'on sera le plus nombreux possible. En fait, j'avais créé c'est un parti politique, hein, qui a le statut en 2013, dans le cadre de ma campagne aux élections municipales, pour avoir un véhicule juridique administratif le plus clair, le plus transparent et le plus fiable possible. Et je l'ai de plus en plus fait évoluer vers une approche nationale et je vais continuer à le faire, tout simplement parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et j'arrive à une période de ma vie où j'ai envie que les idées auxquelles je crois, eh bien, on puisse les développer. On a beaucoup travaillé sur le contenu. On avait produit une note de synthèse d'une trentaine de pages au mois d'août dernier. Un grand hebdomadaire français, Le Point en l'occurrence, en avait repris quelques feuillets. Et je pense qu'il est important de travailler sur le contenu et c'est pour ça qu'on s'engage. Si vous
ne craignez pas d'ajouter à la confusion et d'accélérer en quelque sorte l'éparpillement de votre famille politique?
Non, parce que ce qui ajoute à la confusion, c'est le manque de conviction. Donc, quand on ajoute de la conviction, au contraire, on ajoute de la clarification et j'espère de l'entraînement. Et puis, à terme, il faut se retrouver. À chaque fois, j'ai été extrêmement loyal et comme je le dis souvent, pour être loyal, il faut être libre. Donc, moi, je suis très attaché. Je souhaite qu'on y ait un grand mouvement, un grand parti politique, LR, LR transformé. On verra ce qui se passe dans les prochains mois, mais qui porte des idéaux qui soient capables à nouveau de parler à la jeunesse, à nouveau de parler aux commerçants, aux artisans, aux fonctionnaires, aux retraités, aux agriculteurs, aux familles. Enfin, si autrement, je répète, je vous dis toujours ça, on ferait autre chose.
Alors, monsieur le président des maires de France, permettez-moi de vous ramener dans le sud, dans votre région favorite, puisque vous êtes le maire de Cannes. Dans quelques instants, on reviendra donc en Méditerranée.
Europe 1, les grands entretiens.
Charles Villeneuve.
David Lisnard, le sud, dont vous êtes l'un des élus majeurs, est une illustration de la fracture actuelle de la droite. Une question plus personnelle à ce sujet, comment avez-vous vécu personnellement les déchirements de votre famille politique dans votre région, de l'épisode des élections régionales au départ des figures marquantes comme
Hubert Falco, le maire de Toulon, Christian Estrosi, le maire de Nice, et Renaud Muselier, le président de la région Provence-Côte d'Azur, en passant par votre propre élection à la présidence de l'Association des maires de France, qui n'a pas été de tout repos, mais qui a été gagnée confortablement, vous l'avez rappelé.
Qui a été une très très belle aventure d'ailleurs et je prends beaucoup de plaisir à sillonner la France et à rencontrer les maires. Bon, ce qui se passe partout, je crois, en France, il y a une recomposition de l'offre politique et si vous voulez, je constate aussi, enfin moi il y a quelque chose que j'ai appris dans ma petite vie, hein, c'est d'être concentré sur ce que je maîtrise, pas sur ce que je ne maîtrise pas. Donc certains sont partis, moi je ne maîtrise pas ce qu'il y a dans leur cœur et dans leur âme et ils ont fait leur choix, leur âme et conscience et j'ai pas à les commenter. Ce que je constate, c'est aussi tous ceux qui, dans notre département, crée une dynamique qui reste positive et qui fait que, regardez, dans les Alpes-Maritimes, hein, on a aujourd'hui une majorité de députés LR qui savent parler aussi aux nouvelles générations, ce qu'on a du mal à rencontrer ailleurs. Donc, on arrive aussi à se renouveler, à se régénérer. Dans la circonscription, Alexandra Martin a fait un magnifique
score.
Mais
c'est vrai que sur le plan législatif, la Macronie a fortement reculé et...
Mais ça s'est fait au profit du Rassemblement National.
Voilà, le Rassemblement National, par exemple.
Et de la NUPES, le VAR. Un peu moins, mais surtout dans le Rassemblement National. Donc, il y a
c'est
un besoin.
C'est un raz-de-marée, Rassemblement National.
Si vous voulez, je crois, moi, on est là, comme toujours, il faut s'arrimer à ce que l'on pense être solide, c'est-à-dire à ses convictions, à ses valeurs, à ce que j'exprimais tout à l'heure lorsqu'on parlait de la redéfinition de ce qui pourrait être un corpus, d'une alternative crédible, forte et raisonnable pour que apporter une voix d'espérance pour la France. Voilà, donc il y a des personnalités différentes, très fortes, mais qui sont restées fidèles à leurs convictions et
c'est ce que l'on... Qui, là
je pense dans mon département, si on reste dans le département, mais Éric Ciotti, Sébastien-Henri Leroy, Michel Tabac, à Lionel Lucas, à Jean Leonetti, à Jérôme Viau, enfin je pourrais en citer, que ceux que je ne cite pas me pardonnent, qui sont ancrés, qui sont au contact des réalités, qui
vous avez pas mal de sénateurs aussi.
Et puis des sénateurs, Alexandra Borchio, Éric Pogé en député, Henri Laurent sénateur, enfin bon, on en a, voilà. Donc, c'est une sociologie qui n'est pas facile, contrairement à ce que certains pensent. Hein. Voilà, c'est une sociologie qui n'est pas facile. Hein. Il y a les mêmes phénomènes sociologiques qu'ailleurs en France, d'évolution démographique, etc. Donc, je ne crois pas qu'il y ait un tropisme particulier. Il y a des mouvements de fond, nos échecs viennent d'éléments de circonstances aussi
qui là, font parler sur le plan national,
mais qui font que il est vrai que avec le Covid et l'Ukraine, il y a eu et que n'a pas voulu le président de la République, mais il en a joué, ce qui est à la rigueur presque normal, en tout cas tactiquement. Donc il a joué sur tout il a surjoué parfois la crise et ça a mis un peu la démocratie en apnée et ça n'a pas ouvert l'espace à la compétence. On l'a vu à la présidentielle, on avait du mal à instaurer des débats. Et puis il y a les responsabilités, on n'a pas su parler, on n'a pas su être en phase avec les aspirations et être crédible et être pire que ça, à être audible.
Vous parlez des Républicains.
Oui, la droite en général, la droite de gouvernement, comme on dit, si vous voulez. Donc c'est tout ça qu'il faut reconstruire. Mais comme je pense qu'on a une utilité pour la démocratie et le pays, il faut le faire, il faut y aller. Je pense que nos valeurs sont les bonnes valeurs, nos principes sont les bons principes, les propositions qu'on est en mesure de porter sont les bonnes propositions. Et donc, c'est cela qu'on doit faire sur les 5 années qui viennent.
Mais comment vous expliquez la poussée quand même très forte du Rassemblement National dans le Sud? Le Var, c'est presque submergent.
Pardonnez-moi, mais croyez-vous que ce soit propre au Sud? C'est pas propre au Sud. Moi, j'ai regardé la carte électorale. Ce qui est très frappant, c'est que le Front National, qui était présent dans les grandes villes dans les années 90, aujourd'hui est présent dans la ruralité. Moi, vous savez, je parcours tout le pays avec l'Association des maires de France et je vois les maires partout, donc des gens formidables, engagés, etc. Et quand vous voyez les scores du Rassemblement National dans la ruralité, partout maintenant en France, dans des secteurs qui, il y a encore 10 ans, n'avaient pas du tout de votre Rassemblement National. Je pense que l'Assemblée nationale a su avoir, je ne vais pas commenter indéfiniment ce parti, puisque ce n'est pas le mien, mais a eu une offre qui était plus simple, qui a répondu peut-être à une crise existentielle, identitaire, de façon plus claire. Mais qui, à mon avis, ne correspond pas aux besoins. C'est-à-dire que à nous d'arriver à capter l'attention, de montrer qu'on est dans la vie, qu'on est en face dans les réalités, et de le transformer en énergie constructive, en énergie positive. Vous savez ce que j'ai vu aussi au moment des législatives? Je suis allé voir beaucoup de candidats partout un peu en France, dans beaucoup de départements. Il y a eu le fait qu'on nous annonçait un désastre a accéléré aussi un renouvellement de génération au sein de LR. Et j'ai vu des jeunes candidats vraiment de très grande qualité, des gens droits, des gens bien, des gens qui sont dans la vraie vie, qui bossent et qui sont très très bien dans leurs convictions. Et donc je pense qu'on a la capacité sur 5-10 ans de recréer une offre politique solide, fiable, sérieuse et qui soit respectable et respectée.
Vous avez quel âge, David Lisnard ?
53 ans.
Est-ce que vous avez l'intention de vous engager plus avant dans l'entreprise ardie, faut le dire, ardie, de refondation de la droite ? Ou votre statut de président des maires de France vous oblige aussi ? Est-ce que ça ne vous oblige pas à une forme de réserve vis-à-vis des enjeux partisans ?
Mon rôle de maire de Cannes m'oblige. En tant que maire, vous n'êtes pas un maire de droite ou un maire de gauche. Tous les maires vous le diront. Vous êtes un maire, vous êtes qui vous êtes. Donc moi j'ai mes convictions, mes principes, mais ensuite vous essayez de régler, d'apporter des solutions et de porter un développement local harmonieux. J'ai une obligation en tant que président des maires. Mon obligation en tant que président des maires, c'est pas d'être neutre, c'est pas d'être une endive. Hein. C'est pas l'association des endives de France, hein, l'association des maires de France. Il y a beaucoup de maires très engagés. Il y a eu des présidents. François Baroin n'était pas spécialement neutre et absent du débat national. Jacques Pélissard non plus. Delevoye non plus. André Léniel n'est pas spécialement neutre. Donc, mon obligation
à l'AMF... Il faut rappeler qui est André Léniel,
le premier vice-président de l'association des maires de France, qui était ministre de François Mitterrand, qui est un homme de conviction de gauche très affirmé, moi, pour qui j'ai beaucoup de respect, et qui est quelqu'un de très très engagé. Donc, si vous voulez, au sein de l'AMF, on nous demande... En revanche, quand on se retrouve sur les projets locaux, on arrive à trouver ces éléments communs, très forts. Et c'est ça qui est magnifique. Et c'est justement d'autant plus beau qu'on a nos convictions. Donc je ne vais pas renoncer à mes convictions. Et pour répondre à votre première question, moi, je ne viens pas du tout de la politique. Moi, j'ai la chance d'avoir mes parents qui sont toujours de ce monde, qui sont des gens très bien, très simples, très discrets. Ma mère était danseuse étoile, mon père footballeur, reconverti dans le petit commerce. Et j'ai toujours eu la passion de la chose publique, je ne sais pas pourquoi. Et ce qui est sûr, c'est que je ne veux pas transiger avec ce que je crois bien pour le pays. Moi, je ne suis pas dans des choix tactiques, je ne cherche pas un poste, je ne cherche pas une fonction. Autrement, j'aurais fait autre chose, quoi.
Alors, vous disiez que votre père était footballeur, votre mère danseuse étoile, et vous êtes maire de Cannes, président de l'Association des maires de France, mais vous avez une particularité aussi. Vous êtes marathonien.
Oui.
Non ?
Oui, de plus en plus lent, malheureusement. C'est lié à mon âge aussi.
Mais c'est un caractère particulier, marathonien, par rapport au collectif que réclame la politique.
Moi, le sport m'a toujours beaucoup apporté. Je pense qu'on se, dans la vie, on peut échapper au déterminisme social à sa condition par le sport et la culture. J'ai eu la chance d'avoir accès à ça par des rencontres, par hasard, par de la chance, certainement. Et donc, ça permet de se sentir bien dans sa peau, le sport et la culture aussi, d'ailleurs. Je les associe. Et c'est vrai que la pratique du marathon, j'essaie de faire beaucoup de semis dans l'année, des trails, des courses, mais au moins deux marathons par an, permet de mieux se connaître soi-même. C'est la base de la philosophie, il me semble. Et pour être bien avec les autres, il faut essayer d'être bien avec soi-même. Et je pense que c'est important. Ouais, je sais. C'est trop intime, mais... Mais en tout cas, le marathon vous aide aussi à gérer le temps. C'est-à-dire que il y a plusieurs points communs entre le marathon et la politique, c'est de gérer l'effort, d'avoir le sens de l'effort, parce qu'en politique, croyez-moi, contrairement à ce que pense beaucoup de monde, c'est très difficile, c'est très gratifiant parce qu'on fait des choses belles, quand vous sortez un projet, quand vous arrivez à aider quelqu'un en lui permettant de se libérer. Enfin, c'est beau le mandat de maire. Mais c'est de gérer l'effort et de gérer des échéances. Comme dans le commerce aussi, il y a des échéances. Et le marathon, il faut être bon le jour de la course. Donc il faut se préparer. Et la satisfaction au moment de la sanction sera proportionnelle à l'effort qui la précède. Et je trouve que c'est une belle leçon de vie.
Alors, il y a une dernière question qui s'impose.
Je ne sais pas.
Vous êtes le maire de Cannes. Au mois de mai, c'est la capitale du cinéma mondial, Cannes. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la dernière édition du Festival de Cannes ? Et est-ce que vous avez eu le temps de voir les films présentés ?
J'ai vu quelques films. J'ai vu La Palme d'Or, notamment. Mais c'était une belle édition.
Approuvé ? Vous êtes d'accord avec La Palme d'Or ?
Je n'ai pas approuvé ou pas. C'est le choix du jury. Je pense que c'est un film très fort. Voilà. Mais si vous voulez avoir mon avis. Mais qui suis-je pour commenter un jury de festival. Qu'importe. C'était une réussite parce que c'est beaucoup de travail, le festival. C'est-à-dire que, vu l'extérieur, ça paraît comme un moment... D'ailleurs, on lui reproche tous ses paradoxes au festival. On lui reproche d'être trop glamour, mais aussi d'être trop intello. Et il y a des effets exaspérants. Il y a le côté entre-soi qui peut être très, très insupportable. Mais on a le plus grand festival culturel au monde. Chez nous, en France, à Cannes, sur la Côte d'Azur. C'est l'événement le plus médiatisé au monde avec les Jeux Olympiques. Quelle chance de l'avoir. Et il se nourrit de ses paradoxes. Et il y a eu des moments très glamour. Le film avec la Warner, Elvis Presley, ça a été un grand lancement mondial. Le Top Gun avec la Patrouille de France. Et ça a été un grand lancement mondial avec la Paramount. On a eu la chance d'avoir des grands studios. Et puis parallèlement, on a eu des films d'auteurs, des films coréens, japonais, sublimes.
Mais vous avez eu, vous,
et
perso.
Un marché du film qui rebondit. Et pour nous, il faut bien comprendre que le Festival de Cannes, c'est le palais des festivals et des congrès qui est devenu le premier palais des congrès de France. C'est une grande fierté. Toute l'année, il vit avec des événements. On est en compétition mondiale. C'est notre usine Michelin à nous, quoi. Comme pour, si j'étais à Clermont, vous voyez. Ça fait vivre des milliers de personnes, de tout métier, de toutes conditions. Donc, de l'extérieur, ça apparaît intellectuel et glamour. De l'intérieur, c'est beaucoup de travail et ça nous apporte des revenus. Et on a besoin de cela.
Puis-je vous demander votre coup de cœur?
Tous les films que je n'ai pas vus encore.
Non,
mais vous savez, les plus grands coups de cœur, c'est ceux à l'époque où je n'étais pas maire, où je connaissais personne. Et quand j'étais jeune, moi, j'étais fasciné par cet événement qui était fermé, hein. Et j'avais réussi à m'infiltrer avec un copain à l'époque. Et j'avais rencontré Wim Wenders, j'avais rencontré Roger Moore, Jean-Claude Brialy. Donc, les plus beaux souvenirs, c'est peut-être
c'est
un peu
nostalgique. C'est la rencontre des personnes.
Mais c'est la rencontre des personnes et ceux dans lesquels auxquels on s'attend pas. Et puis depuis, il y a des coups de cœur quand vous regardez *Tree of Life*, qui est un film *L'arbre de vie*, qui est un film sublime. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, mon coup de cœur du jour, c'est ces images qui nous rapprochent de la création du monde. Vous avez vu, hein, c'est magnifique. On voit la formation du cosmos et on a ces images qui sont partagées sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau et de plus magnifique. Et quand vous voyez une grande œuvre d'art comme Terrence Malick, vous approchez de l'homme et du spirituel. J'ose pas dire du divin parce qu'on respecterait pas le principe de laïcité. Je représente les maires de France, mais et voilà. Et c'est ça qui est beau et ça fait du bien aussi dans la vie. Il faut avoir les pieds sur terre. Les mains dans le cambouis, puis un petit peu la tête dans les étoiles, et y compris quand on regarde les stars.
Pour finir, vraiment, vous allez y aller à la refondation de votre parti et vous serez un candidat à la présidentielle?
Alors, j'irai d'une façon ou d'une autre. Est-ce que je serai un candidat? Tout ça, c'est beaucoup
c'est
trop
tôt
pour en parler, puis c'est trop égocentré.
Ça part
à
de loin,
stade-là.
Vous savez.
Ouais, écoutez, j'essaie de bien faire, de bien assumer mon présent
et en tout cas, vous êtes l'un des espoirs.
Mon avenir dépendra de mon présent aussi. Voilà.
Vous êtes l'un des espoirs. Vous le savez.
J'en accepte l'augure. Écoutez, je trouve que être un espoir à mon âge, ça prouve qu'en politique, on peut réussir assez tard.
Merci David Dysnard, maire de Cannes, président de l'AMF, l'Association des maires de France. Merci.
Merci à vous.
Dimanche prochain, 24 juillet, grand entretien avec Catherine Ney, figure du journalisme politique qui, après avoir publié ses mémoires à succès, Souvenir pour le premier tome, et tu le sais bien, le temps passe pour le second, nous raconte les luttes politiques dont elle a été le témoin entre les grands fauves de la 5e, dimanche prochain, entre 10h et 11h. Passez un bon été à l'écoute d'Europe 1.
Charles Villeneuve sur Europe 1.